Je ne sais pas si on aurait pu rester très très longtemps sous statut d'État. C'est vrai que quand on commence à faire un peu d'export dans notre activité, ça commence à devenir un peu difficile.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Le samedi 2 octobre, je rencontrais au Capucin Patrick Lechêne. Actuellement cadre qualiticien chez Naval Group, il y entrait en 1995, à l'époque où la boîte s'appelait DCN, Direction des Constructions Navales, et était encore une administration de l'État. Quand arrive la semi-privatisation de la DCN, Patrick Lechêne, de par son expérience du privé, se retrouve sollicité par ses collègues afin de négocier cette transition avec les représentants de l'État via son syndicat, la CFDT.
Je n'avais aucun projet pour travailler dans les constructions navales ou dans les réparations navales. C'était plutôt un accident de parcours, c'est-à-dire que l'entreprise où j'étais avait quelques difficultés à ce moment-là. Et effectivement, il y avait un contrat possible avec la DCN pour d'assistance technique et on me l'a proposé. Voilà. Donc, j'avais pas trop le choix, véritablement. Et j'ai pris un peu ce contrat-là, enfin, d'assistance technique, un peu par défaut. Voilà. Mais finalement, je me suis assez vite intégré. Je suis tombé sur des gens très sympathiques, le milieu de l'arsenal, que je ne connaissais pas du tout, à la fois un encadrement militaire, mais aussi des ouvriers d'État, des techniciens, qui m'ont très très bien accueilli à ce moment-là. J'ai un bon souvenir de cette période. J'ai été un peu embauché pour ça. Je faisais beaucoup d'assistance utilisateur, de formation des personnels. Et progressivement, donc j'ai évolué sur des systèmes d'information, des logiciels, etc., un peu plus complexes. Et puis à un moment donné, j'étais militant CFDT, mais disons de base dans mon secteur géographique. Et à un moment donné, j'ai été sollicité pour être permanent syndical, alors qu'on était toujours dans l'administration. On n'était pas encore entreprise. Donc c'était en 2001, je suis devenu permanent syndical à la CFDT de l'Arsenal, on va dire. Et progressivement, c'est pointé le changement de statut de la DCN en entreprise. Un changement de statut qui s'est fait en 2003, au 1er juin 2003. Et donc il a fallu travailler beaucoup sur cet aspect syndical, droit des personnels, puisque à partir du 1er juin 2003, l'entreprise était à même d'embaucher des salariés de droit commun, de droit privé, quoi, sous convention collective de la métallurgie. Et donc là, des négociations se sont ouvertes avec la direction. Mais comme j'étais issu du périmètre du privé avant mon intégration à la DCN, les copains se sont un peu retournés vers moi. Ils disent « Patrick, toi, tu as connu le privé. Tu sais ce que c'est qu'un contrat de travail, une convention collective. Nous, on découvre ça au fur et à mesure. Et donc, peut-être que tu pourrais nous donner un coup de main. » Et c'est parti comme ça. Et donc... je suis devenu permanent, puis ensuite négociateur, et puis ensuite délégué syndical central de la DCN, voilà, au début où elle était en entreprise. Voilà, c'est une combinaison qui s'est mise en place et puis qui a fait que je me suis retrouvé là. Mais on ne travaille jamais seul dans ce genre d'évolution, on travaille en équipe. Donc voilà, c'est un travail d'équipe.
À son embauche en 1995, Patrick Lechêne quitte le secteur privé où il travaillait auparavant pour une entreprise étatique qui songe néanmoins et depuis déjà de nombreuses années à passer elle aussi vers une privatisation de ses capitaux.
Effectivement, on sentait bien qu'il y aurait des évolutions à venir. Maintenant, on ne pensait peut-être pas que ça allait être si important. C'est-à-dire que aujourd'hui, Et ça a été un peu brutal, même s'il y avait des prémices au préalable. Peut-être qu'il y avait... On nous présentait davantage quelque chose qui aurait pu évoluer vers un établissement public, industriel et commercial, et pas tout de suite une entreprise à capitaux publics, mais une entreprise. Donc c'est arrivé en courant de l'année 2001. Et effectivement, ça a été un choc pour beaucoup de gens qui s'y attendaient pas, parce qu'à l'époque, on avait des fonctionnaires techniques, des militaires, des ouvriers d'État, des techniciens à statut ouvrier, et donc des gens qui étaient sous statut public, quoi. Donc évidemment, ça a été un choc, quoi. Donc voilà, bah, ça a été un peu brutal. Il y a eu des actions syndicales un peu, enfin, assez importantes. Voilà, qui ont certainement un peu influé sur la qualité des débats qui ont suivi, puisqu'on a senti quand même qu'il y, a une, il y avait une volonté d'une certaine paix sociale, de part et d'autre, de la part de la direction, de la part de l'État, du ministère de la Défense, du gouvernement. Finalement, ces actions syndicales à ce moment-là, qui ont été des actions syndicales de masse, mais dans un certain... calme quand même, en fait que on a pu entamer des négociations, parce qu'à ce moment-là on savait que c'était parti, des négociations qui ont abouti à des accords sociaux qui étaient, on va dire, d'un bon niveau tout de même. Je pense que les négociations étaient, j'ai souvenir que ces négociations étaient relativement faciles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où les relations sociales sont les plus tendues, on va dire.
En 2004, le changement de statut de l'entreprise est acté.
Ben, moi, c'est le passage au statut disons, privé, enfin statut commun, n'était pas obligatoirement pour moi un problème fondamentalement à titre personnel, on va dire, puisque je l'avais connu pendant 15 ans avant dans différentes entreprises. Donc c'était pas véritablement un problème, mais je sentais bien que il y avait quand même des droits sociaux qui étaient d'un bon niveau. Déjà, lorsque la DCN était administration hein, de la Direction Générale d'Armement, les droits sociaux, ils étaient d'un bon niveau. Et donc je sentais qu'il fallait préserver ces droits sociaux, ou de faire en sorte que les gens qui seraient de statut de droit privé, qui seraient embauchés sous statut de droit privé, aient aussi un niveau social, enfin, dans leur contrat de travail, qui soit aussi d'un bon niveau. Hein. Et je pense que, enfin, je le redis, mais je crois qu'il y avait une volonté de paix sociale de part et d'autre, qui a fait que la négociation a été, elle était, j'ai dit facile par rapport à aujourd'hui, mais il fallait quand même tout étudier, faire des propositions, bien travailler avec notre fédération syndicale, avec notre confédération, avec aussi des représentants syndicaux d'autres grandes entreprises françaises, hein, pour voir un peu sur quoi on peut aller, qu'est-ce qu'on peut revendiquer, qu'est-ce qu'on peut obtenir, quel est le niveau qui serait intéressant d'obtenir pour les salariés dans l'avenir, eh bien, qui seraient embauchés, les jeunes, qui viendraient nous rejoindre, que socialement ce soit correct. Voilà. Donc il y a eu tout ce travail-là qui a été fait dans les différentes organisations syndicales, et notamment à la CFDT dont je faisais partie. Sur cette transition, on va dire que ça a été à peu près 2 ans, hein, pour aboutir aux premiers accords sociaux, puisqu'on a signé les premiers accords en mai 2004, voilà, ça a été une première transition. Et par la suite, on a continué à négocier sur des thèmes divers et variés, la participation, l'intéressement, des choses qu'on ne connaissait pas du tout avant, des évolutions sur la protection sociale, des meilleurs remboursements de mutuelles, etc. Donc tout ça, c'est aussi fait dans le temps, c'est-à-dire que les négociations principales se sont arrêtées en mai 2004, mais elles se sont poursuivies puisqu'on n'avait pas eu le temps de traiter tous les sujets. Et aujourd'hui, ça continue toujours, quoi. Il y a toujours des thèmes de négociation divers et variés. Récemment, C'était, je crois, un accord sur la diversité dans l'entreprise, donc le handicap, mais aussi la diversité d'origine, etc. Donc tout ça, ça se discute aussi dans les entreprises aujourd'hui, ça continue.
Passé les négociations de 2004, Patrick Lechêne n'en reste pas moins un interlocuteur privilégié dans les différents conflits sociaux au sein de Naval Group. En témoigne sa participation à l'Assemblée nationale en 2009, à la programmation militaire de 2009 à 2014.
Il y a une période un peu difficile à ce moment-là où on avait du mal à obtenir un certain nombre de contrats, me semble-t-il. Et donc ça a été un peu tendu en termes... On sentait que la direction n'était pas loin de déclencher un genre de PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Mais... globalement, depuis la création de l'entreprise, finalement, 1er juin 2003, on n'a pas eu de gros soucis sociaux. Aujourd'hui, paradoxalement, on en a quelques-uns avec le problème de l'arrêt du contrat Australie. On a notamment des soucis du côté de Cherbourg. On a à peu près 300-350 personnes qu'il va falloir recaser. En espérant qu'on arrive à les recaser dans l'ensemble du groupe. Voilà. Donc ça, c'est un point délicat aujourd'hui. Mais bon, il y a toujours eu des hauts et des bas, mais jamais des bas très importants, on va dire.
Du coup, comme on a pu déjà le voir tout au long de son histoire, DCN, puis DCNS et Naval Group n'ont cessé de connaître des refontes, des modifications de son organisation, de son statut. Qu'est-ce qui justifie une telle mouvance, de tels changements en fait dans l'entreprise?
Je ne sais pas si on aurait pu rester très très longtemps sous statut d'État. C'est vrai que quand on commence à faire un peu d'export dans notre activité, ça commence à devenir un peu difficile. À l'époque... il y avait des sociétés qui s'appelaient DCN International, des sociétés comme ça, qui géraient l'activité de la DCN à l'export. Mais bon, ça n'a pas laissé des traces très positives, parce qu'il y a eu plein de problèmes liés à DCN International. Probablement qu'à un moment donné, si l'activité voulait s'exporter, si on devait avoir de l'activité à l'export, sans doute qu'il fallait passer par une entreprise de droit commun. Mais voilà, quand on regarde l'histoire, après, ça paraissait difficile de rester dans le même statut.
Je vois même en 2007, par exemple, il y a eu toute une réorganisation également pour s'aligner sur les prix des autres sous-traitants. Il y a eu une réorganisation aussi de l'organisation du travail. Notamment, j'ai pu voir qu'il y avait tout un... Même sur le site de Brest, on a rapproché les bâtiments, je crois. Enfin, voilà, il y a eu énormément de modifications. Et c'est vrai que on voit dans toute l'histoire du coup, de l'entreprise, il y a eu constamment ces réalignements. Peut-être que c'est juste normal que ça correspond à une entreprise de cette taille-là. Mais...
Oui, je pense que... Oui, il y a eu des changements. Il y a eu l'arrivée aussi d'un actionnaire, puisque jusqu'en 2000... au printemps 2007... il y avait un seul actionnaire pour cette entreprise, c'était l'État, 100%. Et à partir de mars 2007, de mémoire, c'est Thalès qui est venu au capital à hauteur de 25%. Depuis, il est monté à 35%. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le numéro 1 de l'entreprise est quelqu'un issu de Thalès. Pierre-Éric Pommelet est un ancien... cadre dirigeant du groupe Thalès. Voilà, donc certaine influence thalésienne, on va dire, dans l'entreprise. Ils ont voulu rationaliser l'outil industriel et effectivement, on se retrouve, par exemple, à concentrer l'activité sur le secteur dit de la pointe. Je ne sais pas si vous voyez dans l'arsenal le secteur de la pointe, ce que ça peut donner. Vous voyez, les cols de la pointe, c'est tout proche derrière. Hein. Et on voit bien toute cette activité-là, on la voit par exemple, du jardin des explorateurs. On voit bien cette partie-là de la pointe. Et effectivement, l'activité de Naval Group aujourd'hui est concentrée sur cette partie-là. Alors pour Brest, hein, parce que vous avez aussi l'île Longue, hein, où on a 600, 600 personnels qui travaillent à l'île longue aussi. Hein.
Et comment, du coup, avec toutes ces modifications, ces changements de statut, ces réformes, etc., comment vous, votre travail, concrètement, s'est vu modifié dans le temps, du coup ?
Oui, ben, disons qu'on n'avait plus affaire à une hiérarchie, on va dire, militaire, même si elle n'était pas si militaire que ça, parce que c'était d'abord des ingénieurs, hein, des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études d'armement, donc qui étaient formés à l'ENSIETA, souvent à Brest, ici, qui s'appelle, je ne sais plus comment aujourd'hui, le nom de l'école d'ingénieurs. On avait beaucoup d'encadrements qui étaient issus de cette formation-là. D'ailleurs, il y en a toujours, hein, des anciens qui ont été formés à l'ENSIETA et qui sont devenus cadres chez nous et qui sont toujours en fonction aujourd'hui, mais sous statut privé. Quoi. Donc, on a eu aussi l'arrivée de nouveaux managers, hein, de nouveaux responsables, des salariés aussi nouveaux qui n'avaient pas du tout cette expérience de l'arsenal, cette histoire, etc. Donc effectivement, ça a évolué, les relations ont évolué, mais peut-être un peu plus d'individualisme. Mais la présence syndicale forte a fait que finalement, il reste un esprit de solidarité malgré tout, même si bon, il n'est plus peut-être du niveau du siècle dernier, on va dire. Mais il y a encore quelque chose de fort, je crois, dans cette entreprise qui est du niveau de la solidarité entre les personnels. Ça reste important. Mais je pense que c'est du fait d'une implantation syndicale forte aussi, toujours assez forte. C'est pas parce que l'entreprise a un statut de droit commun aujourd'hui, comme toutes les entreprises, que les syndicats ont perdu en influence ou en adhérent. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que, globalement, la CFDT a toujours à peu près, un peu moins, un peu plus, autour de 2000 adhérents dans l'ensemble du groupe. Hein. On est à 15 000 aujourd'hui. Il y a à peu près toujours eu 2000 adhérents. Et aujourd'hui, alors, on est peut-être à 1900, 1950, mais toujours dans l'ordre de grandeur des 2000. Et je suppose que les autres organisations syndicales, notamment la CGT, qui est aussi importante, est à peu près peut-être dans ces eaux-là en termes de nombre d'adhérents. C'est-à-dire que globalement, on peut peut-être estimer à 35-40% des personnels qui sont syndiqués, ce qui est par rapport à une entreprise classique où la présence syndicale ou l'adhésion syndicale est de l'ordre en moyenne en France de 8 à 10%, enfin, plus proche de 8 que de 10 d'ailleurs. Ça reste quand même un bastion syndical fort. Naval Group reste un bastion syndical fort. À côté, sur la base navale, vous avez aussi tous les salariés du ministère de la Défense, des fonctionnaires, des contractuels, des ouvriers d'État, qui sont aussi présents dans nos organisations syndicales. Hein, puisqu'on est souvent resté syndicat de la Défense, avec une branche Naval Group, et une branche, disons, étatique, ministère de la Défense. Et on se côtoie toujours un petit peu, ou assez régulièrement, ensemble. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est aussi le travail des représentants syndicaux d'avoir réussi ça, c'est-à-dire d'avoir conservé une adhésion syndicale, un taux d'adhésion important dans cette entreprise. Et ce qui fait que, malgré tout, même si le dialogue social est sans doute un peu plus dur aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé, il existe toujours et d'un certain niveau, dû effectivement à cette présence syndicale forte, avec un taux d'adhésion assez remarquable et qui ne s'est pas effondré dans le temps.
La Grande Maison. Une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries.
On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.